Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre magazine d'information, Nawel El Amouchi. Les pourparlers sur le programme nucléaire iranien ont débuté cet après-midi à Genève entre le chef de la diplomatie iranienne et ses homologues de l'Union européenne, français, allemand et britannique. Cette réunion pourrait être une chance de règlement pacifique entre l'Iran et Israël. Des milliers de manifestants de capitales du Moyen-Orient hostiles à Israël ont dénoncé la guerre de Téhéran à Bagdad en passant par Beyrouth jusqu'à Sanaa. En France, la première vague de chaleur de l'été 2025 frappe une grande partie de la France dès ce week-end, avec des températures largement supérieures aux normales de saison. Et tout d'abord, dans notre point actualité, les chefs de la diplomatie française, allemande, britannique et iranienne sont actuellement à Genève pour parvenir à une solution diplomatique avec l'Iran. Les trois puissances européennes font une offre de négociation complète aux Iraniens, incluant le nucléaire, les activités balistiques et le financement des groupes terroristes dans la région. Cette réunion pourrait être une chance de règlement pacifique entre l'Iran et Israël au moment où le président américain Donald Trump doit décider dans les deux prochaines semaines d'une participation militaire aux frappes de son allié israélien contre l'Iran. Et le ministre des Affaires étrangères iranien s'est exprimé à Genève. Il a dénoncé, lui, une trahison du processus diplomatique avec les États-Unis. Ce huitième jour de guerre est marqué par de nouveaux bombardements des deux côtés. Les secours israéliens ont fait état de deux blessés, dont un grave après des tirs de missiles iraniens. Et l'armée israélienne dit avoir bombardé des dizaines de cibles à Téhéran dans la nuit, dans un centre de recherche et développement du projet d'armes nucléaires iranien. Et des milliers de manifestants de capitales du Moyen-Orient hostiles à Israël ont dénoncé la guerre de Téhéran à Bagdad en passant par Beyrouth jusqu'à Sanaa. À Téhéran, des manifestants ont scandé des slogans en soutien aux dirigeants iraniens. Et toujours sur cette guerre, le président français Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement organisera un débat au Parlement. Il a promis de réunir les chefs des partis politiques pour échanger sur ce conflit, mais aussi sur Gaza et l'Ukraine. En Ukraine, justement, une personne a été tuée et 14 autres, dont des secouristes, ont été blessés pendant la nuit au cours d'une nouvelle attaque aérienne russe sur la grande ville d'Odessa dans le sud du pays, selon les autorités. Et l'Ukraine et la Russie ont annoncé dans la journée avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers en vertu des accords qui ont été conclus à Istanbul début juin. En France, demain, des célébrations auront lieu dans tout le pays à l'occasion de la fête de la musique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a demandé au préfet de maintenir une extrême vigilance en raison du niveau très élevé de la menace terroriste et des risques de débordement. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au tour d'horizon de l'actualité. Et on débute par l'actualité au Moyen-Orient et cette guerre entre l'Iran et Israël. Pour Emmanuel Macron, l'Iran, qui possède l'arme nucléaire, est une menace. Il a appelé plus tôt dans la journée un retour à la négociation de fond. On écoute le chef d'État.
Je l'ai dit depuis le premier jour, personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. Et donc, c'est un vrai risque, c'est une vraie menace. La France, d'ailleurs, ne l'a jamais négligé. C'est pour ça que nous avons été au cœur, il y a 10 ans, de la négociation du JCPOA, que nous avons été parmi les négociateurs les plus exigeants et que nous n'avons jamais quitté ce cadre. Donc oui, le nucléaire iranien est une menace et il ne faut aucun laxisme en la matière. Deuxièmement, personne ne peut sérieusement penser que cette menace, on y répond avec les opérations en cours uniquement. Pourquoi ? Parce que il y a des centrales qui sont extrêmement protégées, parce que nul ne sait aujourd'hui totalement dire où est l'uranium enrichi à 60%. Et donc c'est un programme dont il faut reprendre le contrôle aussi par l'expertise technique et la négociation. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs jours, la France a une voix claire, simple. Un, rien ne justifie les frappes sur les infrastructures énergétiques et les populations civiles. Rien. Et deux, il faut absolument prioriser le retour à la négociation.
C'était le chef d'État Emmanuel Macron. Pour nous, ça a été la sidération, c'est ce que nous dit l'écrivaine Maral Kianpour suite aux frappes israéliennes sur l'Iran. Une partie de sa famille vit en Iran, on l'écoute.
Ça a été un peu la sidération, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que la situation était très tendue pour ceux qui la connaissent entre Iran et Israël. Mais c'est vrai que c'était la sidération, parce que c'est vrai que pour nous, c'est arrivé voilà, presque du jour au lendemain, sans prévenir. Donc du coup, ça a été la sidération. Et puis, au bout de 5 minutes, la sidération passée, on a tout de suite pensé à notre famille, donc essayer de contacter les gens qu'on connaissait sur place pour savoir effectivement s'ils étaient en sécurité et s'ils allaient bien.
Vous avez pu les joindre ?
Oui, alors dans les premiers temps, oui, on a réussi à avoir des nouvelles. Donc j'avais une cousine qui revenait de voyage de noces à l'étranger, donc il y a eu du mal à retourner en Iran rejoindre sa famille. Elle a réussi, elle, avec une partie de sa famille, à s'échapper de Téhéran et à rejoindre une province un peu plus reculée pour éviter les bombardements. Mais il y a aussi une grande partie de ma famille qui a décidé de rester à Téhéran parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les personnes âgées derrière elles pour les personnes âgées. Alors il faut savoir qu'en ce moment, il fait très très chaud. Il y a une canicule au Moyen-Orient, donc il fait très très chaud. Donc prendre la route, risquer de tomber en panne d'essence. Bon, ils ne voulaient pas prendre ce risque-là, donc du coup, ils sont restés pour s'occuper également des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et j'ai également une petite cousine qui va naître la semaine prochaine, donc elle ne pouvait pas non plus s'éloigner et prendre le risque de prendre la route pour partir.
C'était l'écrivaine Maral Kianpour au micro de François-Xavier de Calonne. Dans un tout autre volet, le dernier rapport de l'ONU révèle que les enfants, plus que jamais, paient le prix fort des guerres qui secouent notre planète. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Des chiffres qui donnent le vertige. En 2024, les violences contre les enfants en zone de conflit ont atteint un niveau jamais vu, alerte l'ONU dans son rapport annuel publié. Le constat est glaçant, 41 370 violations graves ont été vérifiées, soit une hausse de 25% par rapport à l'an dernier. Plus de 4500 enfants ont été tués, plus de 7000 blessés. Au total, ce sont 22 495 enfants qui ont été victimes de multiples violations, un record depuis près de 30 ans que l'ONU surveille ces drames. En première ligne, les territoires palestiniens avec plus de 8500 violations graves, dont plus de 4800 à Gaza, en très grande majorité attribuée aux forces israéliennes. L'ONU confirme la mort de 1259 enfants palestiniens à Gaza et enquête encore sur le sort de milliers d'autres dans un territoire dévasté par la guerre déclenchée après l'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023. Derrière Gaza, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Nigeria et Haïti sont aussi durement touchés. En Haïti, les violations ont bondi de 490% en un an, poussant l'ONU à inscrire la principale coalition de gangs, Vivansam, sur sa liste de la honte pour meurtre, recrutement et viol collectif d'enfants. Virginia Gamba, représentante spéciale de l'ONU, lance un cri d'alarme. Les cris de ces 22 495 enfants innocents qui auraient dû apprendre à lire ou jouer au ballon, mais qui ont dû apprendre à survivre aux tirs et aux bombardements, devraient tous nous empêcher de dormir. Nous sommes au point de non-retour, dit-elle. Un signal d'alarme pour la communauté internationale alors que les enfants restent partout les premières victimes des conflits armés.
En France, la première vague de chaleur de l'été 2025 frappe une grande partie du pays. Avec des températures largement supérieures aux normales de saison, les autorités appellent à la vigilance face à un épisode aussi intense que précoce. Le point avec vous, Arthur-Claude Savoie.
Ce vendredi, la France connaît sa première véritable vague de chaleur estivale, avec des températures qui ont dépassé les 35 degrés dans l'ouest. Jusqu'à 38 degrés sont attendus à Bordeaux, Rennes ou encore dans les Charentes, selon Météo France. Dès 10h du matin, le thermomètre affichait déjà 27 degrés à Toulouse, Nantes ou encore Limoges. 16 départements sont en vigilance orange canicule, notamment de la Manche à la Charente-Maritime, tandis qu'une trentaine d'autres sont en vigilance jaune. À Bordeaux, où se tient le festival Bordeaux Fête le Vin, les autorités appellent les visiteurs à la prudence. L'affluence attendue pousse les organisateurs à renforcer les points d'ombre et d'hydratation. Dans le secteur agricole, les professionnels ont dû adapter leurs horaires. Dans le Bordelais, certains domaines ont avancé les travaux des vignes à l'aube afin d'éviter les fortes chaleurs de l'après-midi. Les tâches les plus physiques sont repoussées ou réalisées dans des tracteurs climatisés. Sur le plan énergétique, EDF prévoit une baisse de production sur le site de la centrale de Bugey en raison du réchauffement du Rhône qui sert au refroidissement des installations. Cette vague de chaleur est causée par un anticyclone bloqué sur la France, renforcé par des masses d'air chaudes venues de la péninsule ibérique, c'est-à-dire en provenance de l'Espagne et du Portugal. Météo France souligne la précocité de l'épisode, l'un des plus tôt recensés depuis 1947. Un refroidissement temporaire est attendu à partir de dimanche, avant une probable remontée des températures la semaine suivante. Selon les climatologues, ce type de phénomène est amené à devenir plus fréquent. La France s'est déjà réchauffée de 1,7 degrés Celsius depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis 1900, et un scénario à plus de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle est désormais envisagé par les autorités.
La canicule s'installe donc en France. Les conseils d'un professionnel pour éviter de souffrir de cette situation, le médecin urgentiste Gérald Kierzek.
Premier conseil, c'est déjà de ne pas faire du sport. C'est-à-dire que quand je vois des gens courir sous le soleil ou jouer au tennis, même si on est en bonne santé, on est à risque. On est à risque de coups de chaleur. Pareil, si on travaille en extérieur, il faut faire extrêmement attention. On se sent un peu invulnérable en disant on est jeune, en bonne santé, on peut faire quand même. Eh bien non, même si on est jeune, même si on est en bonne santé, on peut attraper un coup de chaleur avec la canicule. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est pour tout un chacun, il faut qu'on cherche de l'ombre, qu'on cherche de l'air. Donc, on va plutôt aérer le matin, le soir, fermer des volets en journée. Et puis, s'hydrater, ça paraît fondamental pour expulser la chaleur et maintenir une température corporelle à peu près correcte. Mais vraiment, le message essentiel, c'est on va diminuer les efforts, on va essayer de ralentir tout ça pour s'adapter à la chaleur.
Et chez soi, que faire pour maintenir une certaine fraîcheur ?
Maintenant, une certaine fraîcheur, c'est déjà baisser les volets. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui gardent encore des fenêtres ouvertes sans les volets. Donc, on baisse les volets, on aère, on met un système de ventilateur avec un drap un peu mouillé ou une serviette mouillée qu'on met devant le ventilateur. Comme ça, ça va faire une convection d'air frais, ça va permettre de rafraîchir. On peut prendre une petite douche aussi le matin, moins longue et moins chaude, le matin et le soir. On le fait deux fois dans la journée, ça va permettre vraiment de refroidir et on évite l'hydratation avec de l'eau trop glacée. Et évidemment, pas d'alcool, ça paraît là aussi une évidence, mais il y a encore des gens qui pensent que l'alcool, ça réhydrate, alors qu'au contraire, ça déshydrate comme les boissons sucrées.
Et pas de douche trop froide également.
Pas de douche trop froide, plutôt une douche à température ambiante, une température plutôt tiède. L'idée, c'est de ne pas faire de choc thermique, ni par l'extérieur avec la douche, ni par l'intérieur avec une boisson trop glacée.
Quels sont les premiers signes d'un choc thermique ?
Les premiers signes, c'est la température, c'est la soif, c'est la température qui va augmenter, c'est la transpiration. Et parfois, cette transpiration est même bloquée, donc les gens n'arrivent plus à transpirer. Et la soif, c'est déjà un premier signe de déshydratation. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Et après, quand on a des troubles de conscience, les gens un peu ralentis chez les enfants ou les personnes âgées, ça peut aller jusqu'à des convulsions. Et là, on est vraiment sur un choc thermique. Et là, il faut vraiment appeler le 15 de toute urgence.
Ce samedi 21 juin marque non seulement le début de l'été, mais aussi la fête de la musique célébrée dans toute la France. Et si vous ne savez pas encore où aller, Salma Darlaoui a une suggestion pour vous à ne pas manquer.
À l'occasion de la fête de la musique 2025, l'Institut du monde arabe organise le Karaoké de la Liberté, un événement festif et participatif en accès libre. Dès 19h, le public pourra chanter et danser sur les grands classiques de la chanson en arabe, en français et en anglais, avec des titres de Céline Dion, Dalida, David Bowie ou encore Khaled. Les paroles seront projetées sur écran géant, permettant à chacun de participer depuis la scène ou la foule. La soirée sera animée par Naïma Yahi et la chanteuse Samira Brahmia. Un concert live d'Abo Gabi et ses musiciens mettra à l'honneur la Palestine avec des chansons traditionnelles et contemporaines, accompagné de danseurs et danseuses de Debke. Une initiation à cette danse collective du Proche-Orient sera également proposée. Le programme comprend un warm-up assuré par DJ Bab, plusieurs sessions de karaoké, des démonstrations de Debke et des concerts live. La fête se poursuivra jusqu'à minuit avec un DJ set pour faire danser le public. Le rendez-vous est donné samedi 21 juin sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute de notre tour d'horizon de l'actualité et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.